Bonsoir, comment allez-vous? Avez-vous réfléchi à votre lettre au Père Noël? Petits et grands, pensons-y. Ne perdons pas une occasion de rédiger par écrit noir sur blanc nos souhaits. Alors, qu'aimeriez-vous que le Père Noël vous apporte? Je suis d'une génération où les anciens nous racontaient que quand ils étaient enfants, le Père Noël apportait souvent une orange, cadeau que les enfants, à l'époque, étaient follement heureux de recevoir. Il suffit de regarder un écran de pub à la télévision pour voir que ce n'est plus vraiment une orange qui est évoquée comme cadeau de Noël. Les temps ont changé, le Père Noël s'adapte comme il peut. Mais le principe du souhait reste le même. Que souhaitons-nous vraiment? Le savons-nous seulement? Tellement nous sommes occupés à assurer, à être ce qu'il faut que nous soyons, de bons élèves, de bons employés, de bons enfants, de bons parents, de bons amis, de bons voisins, de bons tout. Histoire d'être acceptés, gardés et aimés, si possible. On se demande alors ce que les autres souhaitent pour pouvoir conserver leur estime, leur amitié, leur amour. Mais nous, là-dedans, nous avons complètement oublié ce que nous souhaitons, ce qui nous met en joie. C'est ça précisément que le Père Noël nous demande d'écrire. Alors faisons-le, mais oui, même les adultes. Et cette lettre, nous pouvons soit la jeter dans une boîte aux lettres réservée au Père Noël, soit la brûler. La fumée partira dans le ciel et lui, là-haut, il la reconstituera. Je sais que certains d'entre vous doutent de l'existence du Père Noël. Je crains que ce soit une erreur. Ça risque de le vexer. Rentreriez-vous dans une maison où vous n'êtes pas attendu? Bien sûr que non. Moi, je ne vais que là où je suis invitée. Alors certes, cette histoire de traîneau, de lutin, est étrange. Mais il y a, quand on y pense, tellement de choses étranges dans la vie.
Bonjour, c'est Léonard. J'ai 9 ans, j'habite à Paris. J'aimerais savoir pourquoi il y a souvent des ongles dans les recettes de sorcières. Merci beaucoup, au revoir.
C'est vrai ça, Léonard, bonsoir. Je n'y avais pas pensé. Il y a souvent, il n'y a pas que de la baffe de crapaud, il y a pas mal d'ongles, tu as raison. Docteur Sophie Gutmann, vous n'êtes pas sorcière, vous êtes dermatologue et vous avez écrit « Vos ongles, tout un monde » édité chez Actes Sud. Et vous avez choisi cette question de Léonard, c'est amusant.
Eh bien oui, parce qu'effectivement, les renures étaient réputées depuis toujours avoir énormément de pouvoir. Elles entraient dans la composition de filtres d'amour. Si vous voulez que votre prétendant tombe amoureux, vous faites de la poudre avec vos ongles et vous lui faites boire dans une boisson. Au Moyen-Âge, au Moyen-Âge, les jeunes filles portaient les ongles de leur amoureux au cou dans une amulette. Des potions d'envoûtement également. Les ongles entraient dans la composition de potions d'envoûtement et elles avaient des vertus thérapeutiques. On les utilisait pour soigner. La poudre d'ongles soignait les vomissements. On pouvait cuisiner les ongles. Si vous les faites chauffer avec du sel et des pieds d'alouette, ça va calmer l'ivresse et les maux de tête.
C'est bon à savoir aussi.
On enterrait les ongles, vous faisiez pipi dans une bouteille, vous laissiez pousser vos ongles. Quelques semaines plus tard, vous coupiez vos ongles, vous les mettiez dans la bouteille de pipi, vous allez enterrer la bouteille de pipi dans les Vosges, ça soignait les rhumatismes.
C'est extraordinaire.
C'est assez incroyable. On attachait les rognures d'ongles à un poisson qu'on relâchait pour guérir. Ou alors, ça c'est Pline qui rapporte ça dans son histoire naturelle. Vous coupez vos ongles, vous les mettez dans de la cire. Le matin, vous courez les coller à la porte des voisins en disant que vous cherchez un remède pour la fièvre et la fièvre va tomber.
Alors, comment expliquez-vous ça, vous, médecin? Quel est le lien? Ça veut dire quoi? Les ongles sont très importants ou c'est quoi l'histoire?
Moi, je pense que les ongles ont toujours eu un côté mystérieux déjà au départ parce qu'on ne savait pas ce que c'était.
Ah ouais.
Quand on ne sait pas ce que c'est, il y a tout un tas de mystères qui viennent autour. Et pendant très longtemps, on ne savait pas que les ongles étaient la couche cornée de la matrice de l'ongle, on ne savait pas que c'était de la corde, on ne savait pas ce que c'était. Il faut même penser que Jean Riolan, médecin d'Henri IV, il disait que les ongles, c'était extérieur au corps, que ça n'appartenait pas au corps.
Carrément.
Son fils, après, un siècle plus tard, a dit que les ongles avaient probablement une partie inerte sans vie et une partie interne qui les produisait. Donc, il avait probablement déjà découvert la matrice, mais il pensait quand même que c'était des bouts de tendons durcis. On ne savait pas ce que c'était. Donc, il y a eu déjà tout un tas de mystères au sujet de la composition des ongles.
Est-ce que, le docteur Gutmann, nos ongles, c'est la même chose que les sabots des chevaux, par exemple?
C'est de la corne, c'est de la kératine. C'est aussi la même chose, vous savez, que les pangolins.
J'ai écrit
mon livre et j'ai fait mon petit dessin sur le pangolin. Je l'ai fait avant.
Oui, il est très réussi.
Je l'ai fait avant que le pangolin ne soit dans le collimateur de monsieur Covid-19. Mais le pangolin est un petit mammifère entièrement recouvert d'ongles et qui est totalement exterminé actuellement. Parce qu'en fait, pourquoi? Parce que les ongles, c'est supposé être aphrodisiaque. Donc on tue les pangolins pour prendre leurs ongles qui recouvrent leur corps et en faire des poudres aphrodisiaques. C'est pour ça que dans mon livre, ce petit dessin propose d'utiliser Maintenant, la rognure d'ongle et de fiche la paix au pangolin. Comme tout le monde le sait, la poudre de rognure d'ongle a des pouvoirs. Et vous savez qu'il y a des gens qui collectionnent leur rognure d'ongle. Otto Kellner a collectionné ses rognures d'ongles pendant 25 ans.
Et qu'est-ce qu'il en fait ?
Il les a mis dans un bocal. Elles sont maintenant exposées dans la collection d'anatomie du musée de la faculté de la Charité à Berlin. 25 ans de collecte de rognures d'ongles pour 51,5 grammes seulement.
Ah, oh, c'est dégoûtant quand même. Docteur Sophie Goneman, auteur de Vos ongles, tout un monde, édité chez Actes Sud. Ce soir, dans Les Petits Bateaux, vous avez demandé à Evelyne Eyer si nous avons encore des gènes de nos ancêtres préhistoriques dans notre corps. À Chloé Perrotte, comment se fabriquent les aiguilles, car le trou, c'est quand même tout petit. Et à Julien Bobrov, quel est le plus gros aimant artificiel du monde et à quoi il sert? Ces questions ont été posées au 01 56 40 43 57.
Bonjour, je m'appelle Lucien, j'ai 6 ans. Je voudrais savoir si les arbres ressentent des émotions. Merci, au revoir.
Bonjour, je m'appelle Lina, j'ai 6 ans et je voudrais savoir si les arbres, quand on avale une feuille, ils ont mal ou quand on arrache une branche, ils ont mal. Au revoir.
Ernst Zürcher, ingénieur forestier, docteur en sciences naturelles, professeur et chercheur en sciences du bois dans des écoles prestigieuses de la Suisse d'où vous venez. Vous avez également écrit « Les arbres entre visibles et invisibles » et c'est édité chez Actes Sud. On le dit beaucoup aux enfants ça, tu fais mal à l'arbre. Alors ils vous demandent s'ils souffrent vraiment et s'ils ressentent des émotions, ces arbres, Ernst Zürcher.
Le problème, c'est que les arbres ne peuvent pas parler, donc ils ne peuvent pas communiquer leurs émotions verbalement. Et là, il faut avoir recours à d'autres méthodes. Et la médecine connaît bien les manières ou les techniques pour voir si un être vivant ressent quelque chose qui pourrait être de l'ordre d'émotion. On a effectivement des sondes qu'on peut poser sur le cœur et développer ensuite une forme de lecture de l'activité du cœur, c'est les électrocardiogrammes. Ou bien on peut faire une représentation de l'activité du cerveau, c'est un électroencéphalogramme. Et on se rend compte que les êtres vivants réagissent extrêmement fort à ces deux niveaux-là. Et les chercheurs ont eu l'idée de faire la même chose pour les plantes. Ils ont mis des électrodes sur les plantes et ils ont fait des électrophytogrammes, par exemple, en mesurant des potentiels bioélectriques qui sont connus. Toutes les cellules, tous les organismes ont une électricité dans leur fonctionnement, y compris les plantes. Le premier qui a fait ces études, c'était un Californien, Clive Baxter, dont on a beaucoup entendu parler récemment dans un livre « L'intelligence émotionnelle des plantes » qui a été édité en français. Et là, c'est absolument passionnant, c'est vraiment démontré, y compris les documents ou les enregistrements émis par les appareils. Et ces recherches ont montré que les plantes sont effectivement sensibles à ce qui leur arrive physiquement. Une plante dont on arrache une feuille tressaille électriquement. Mais même, là, il est vraiment très loin dans ses observations qu'il faudrait vérifier. Une personne bien intentionnée provoque un autre signal électrique qu'une personne qui vient avec une cisaille et qui veut lui couper quelque chose, même avant d'avoir commencé à intervenir.
Elle pressent,
c'est quelque chose d'assez intriguant. Moi-même, j'ai participé à des recherches où on a appliqué des électrodes aux arbres. Une thèse a été écrite suite à ces recherches en Autriche par un chercheur d'Italie du Nord, Kurt Holzknecht. Et là, on s'est rendu compte que les arbres ont une sensibilité qui va extrêmement loin, jusqu'aux influences lunaires. Il y a des marées bioélectriques dans les arbres, en plus de ce qu'on vient de dire, les effets immédiats. Est-ce que c'est une forme d'émotion? Est-ce que c'est purement mécanique? Là, ça reste un peu ouvert. Mais récemment, un chercheur français, Jean Toby, pépiniériste, qui s'appelle maintenant musiniériste, applique des électrodes aux plantes et transforme ces signaux électriques en signaux acoustiques. Il fait de la musique avec les plantes et il se rend compte que les plantes interagissent. Et maintenant, on peut faire rendre audible ce que les plantes ressentent au niveau bioélectrique. Et il se vérifie qu'il y a une interaction. Lorsqu'on s'approche d'une plante, elle chante autrement que lorsqu'on la laisse toute seule.
Ce qui sera intéressant de savoir, puisqu'on sait maintenant que les plantes ressentent, Ernst Zürcher, si par exemple on coupe une branche d'un arbre, est-ce qu'il ressent la même chose si cette branche est coupée par un homme avec un instrument électrique, ou si c'est le vent qui l'a fait tomber, ou si elle tombe parce qu'il a trop de fruits?
Ce sera très certainement différent, parce que ce qu'on sait, c'est que lorsque un fruit, ou parfois aussi une branche sous le vent, est cassée, pour le chêne par exemple, cette branche ne se casse pas n'importe où, elle ne va pas faire des dégâts. Il y a des zones de fracture programmées. Il y a des petits coussinets avec lesquels les branches sont imbriquées dans la branche porteuse, les petites branches dans une branche plus grande. Et lorsque vous avez un vent trop fort, l'arbre se déleste d'une partie de ses petites branches pour diminuer l'impact du vent. Et il va casser, il va laisser tomber ses branches. Là où c'est prévu, ça va presque pas faire de mal, la cicatrisation se fera sans problème.
Il fait comme nous, il réduit la grand voile quand il y a du vent. Extraordinaire cette réponse de Ernst Zürcher. Vous pouvez la réécouter grâce à franceinter.fr. Et puis, Ernst Zürcher a écrit aussi pour les enfants « À l'écoute de la forêt », un album pour initier les jeunes à la protection de l'environnement, et c'est édité chez Favre. You know I can be found sitting home all alone. If you can't come around, at least please telephone. Don't be cruel to who heart is true. Baby, if I made you mad for something I might have said, please don't forget my past. The future looks bright ahead. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, baby, it's just you I'm thinking of. Don't stop thinking of me, don't make me feel this way. Come on over here and love me, you know what I want you to say. Don't be cruel to who heart is true. Why should we be apart? I really love you, baby, cross my heart. Let's walk up to the preacher and let's say I do. Then you'll know you'll have me, and I know that I'll have you. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's just you I'm thinking of. Don't be cruel to who heart is true. Don't be cruel to who heart is true. I don't want no other love, oh baby, it's still you I'm thinking of. Quoi de mieux qu'un Elvis Presley pour chasser le blues du dimanche soir?
Les petits bateaux sur France Inter.
Vous connaissez le principe de l'émission, des enfants posent des questions et nous trouvons des spécialistes pour leur répondre. Et de temps en temps, un enfant est un petit peu grand.
Oui, bonjour les petits bateaux, je m'appelle Rémi et j'ai 6 fois 10 ans. Je voulais savoir si dans mon corps actuellement, il y avait encore des gènes de mes parents préhistoriques. Merci.
6 fois 10 ans, Rémi, une certaine honnêteté. Bonsoir Rémi. Alors vous êtes professeur en anthropologie génétique au Muséum Evelyne Heyer. Donc Rémi demande s'il a encore des gènes de ses parents préhistoriques.
Alors Rémi, il est vraiment dans l'actualité de la science parce qu'en fait, on sait depuis très peu de temps, je dirais 4-5 ans, que effectivement, dans nos ADN à nous, d'hommes modernes, on a un petit peu de l'homme de Néandertal, donc notre plus proche cousin qui a disparu il y a environ 30 000 ans. On a environ 1 à 2%, voire 3% de notre ADN qui vient de cet homme de Néandertal, en tous les cas pour toutes les populations à l'extérieur de l'Afrique. Et alors, ce qu'il y a d'encore plus fort, c'est qu'il y a 2-3 ans, on a pu regarder quels étaient ces petits bouts d'ADN qu'on avait reçus de l'homme de Néandertal. Et dans certains cas, effectivement, on a reçu des gènes de l'homme de Néandertal. Parce qu'il faut bien vous rappeler que dans l'ADN, 98% de l'ADN, c'est pas des gènes. C'est des bouts d'ADN où on sait pas exactement à quoi ça sert. Il y a que 2% de l'ADN qui est vraiment constitué constituées de ce qu'on appelle les gènes, c'est-à-dire des choses qui sont lues et qui font des différences dans la construction d'un individu, dans le métabolisme, dans la couleur de la peau, dans les yeux, etc. Et donc, dans ce qui a été transmis de Néandertal à l'homme moderne, il y a quelques petits bouts d'ADN qui sont effectivement des gènes. Par exemple, on a retrouvé que dans les populations du Tibet, qui sont adaptées à l'altitude, eh bien, le variant génétique, le gène qui leur permet d'être adapté à l'altitude, viendrait d'un homme, entre guillemets, préhistorique, d'un homme de Néandertal, même plus précisément de l'homme qu'on appelle l'homme de Denisova.
Je pensais que vous alliez dire le Yéti.
Non, pas le Yéti. Lui, il n'existe pas pour l'instant.
Evelyne Heyer a écrit chez Flammarion « L'Odyssée des gènes ».
Bonjour, je m'appelle Juliette et j'ai 7 ans. Comment se fabriquent les aiguilles car le trou est quand même petit? Au revoir, merci.
C'est bien observé. Bonsoir Juliette. Alors nous proposons ta question à quelqu'un qui travaille dans une usine qui fabrique des aiguilles. Chloé Perrotte, vous êtes chargée des visites à la manufacture Boeing. Alors Juliette se demande comment se fabriquent les aiguilles car le trou est quand même petit, dit-elle.
Bonsoir Juliette. Alors effectivement, le trou est tout petit. Mais alors sache que le trou de l'aiguille, on dit que c'est un chat. Alors c'est pas comme l'animal, ça s'écrit C-H-A-S. Tout simplement parce que ça vient d'un vieux mot français qui veut dire chasse, qui veut dire enserré, entouré. Donc c'est le chat d'une aiguille. Pourquoi est-il si petit? C'est une très bonne question. On commence par un fil d'acier. Ce fil d'acier, il a un diamètre, c'est-à-dire qu'il a une taille. Et nous, cette taille, elle nous sert à pouvoir coudre. Donc, le chat de l'aiguille, c'est très simple pour le faire. On va prendre ce fil d'acier et on va venir faire ce qu'on appelle l'estampage. C'est-à-dire qu'on va venir marquer le chat pour pouvoir le signifier. Et puis après, on va faire le perçage. Le perçage, c'est qu'on va faire ce petit trou, effectivement, dans l'aiguille.
Nous... Vous le faites avec une aiguille, à votre tour?
Non, on le fait pas avec une aiguille, on le fait avec un poinçon. En fait, on va venir aplatir l'acier pour qu'il s'étire. Mais on doit absolument garder le diamètre de l'aiguille, puisque c'est ce qui va nous permettre à coudre certains tissus. Plus l'aiguille est petite, plus on l'utilise sur un tissu qui est fin. Et après, on aura plein d'autres étapes, puisque cette aiguille, il va falloir lui donner une force et une souplesse également. Et après, il va falloir bien sûr donner un traitement parce que l'acier, ça rouille. Et nous, on ne veut pas que nos aiguilles rouillent. Donc, ce qu'on va faire, c'est qu'on va mettre du nickel autour de cette aiguille pour ne pas qu'elle rouille. Puis après, bien sûr, on va contrôler le produit, le mettre en pochette et ça va donner l'aiguille à coudre. Il faut 27 étapes et 2 mois pour faire ce tout petit objet.
Et le pointu?
Et le pointu.
Parce que quand vous coupez le fil d'acier, il n'est pas pointu.
Exactement. Quand on coupe, quand on fait les deux aiguilles qui sont collées au début, on fait 2 pointes de chaque côté, on fait les 2 trous, et après, on casse pour avoir 2 aiguilles.
Il n'y aurait pas moyen de... Enfin, j'imagine que vous ne m'avez pas attendu, vous y avez déjà réfléchi, de griller quelques étapes, parce que c'est quand même drôlement long.
Alors, on a essayé de faire moins d'étapes ou de les faire moins longues. Mais il faut savoir que nous, on a 188 ans d'expérience dans les aiguilles. Et on a essayé, et malheureusement, en fait, l'aiguille, après, elle n'est pas bonne. Soit elle casse trop facilement, soit elle plie, soit elle rouille. Et pour faire un objet de qualité, il faut du temps. Et donc c'est ce qu'on fait, on prend le temps de faire un objet de qualité.
Chloé Perrotte, c'était.
Avec mes grandes oreilles, moi j'entends les abeilles et tous les appareils. La vie fait des merveilles, de Maubeuge à Marseille. Tous y sont les merveilles, et de la tour Eiffel. J'entends même le soleil, avec mes grandes oreilles. Sommeil, j'ai bien lu tout Corneille. Je dors pas, mais j'essaye. Pas besoin de réveil avec mes grandes oreilles et mon petit orteil. Je peux pépégayer. Auriez-vous un conseil avec mes grandes oreilles? Thank you. belles rimes en hey. Les autres à la corbeille. Tu sais, mes grandes oreilles. Elles m'émeuvent et m'égayent. Rouges comme les groseilles. Parfois, elles m'effrayent. Je voudrais pas ce pareil.
Vous pouvez en chercher vous aussi des rimes en hey. C'était les grandes oreilles de M sur France Inter où vous écoutez les petits bateaux.
Bonjour, c'est Margot. J'aimerais savoir quel est le plus gros aimant artificiel du monde, à quoi il sert et quelle est sa puissance magnétique. Merci de me répondre. Au revoir.
Bonsoir Margot, dis donc, tu parles presque aussi vite que Julien Bobroff et moi, c'est dire. Quel est le plus gros aimant artificiel du monde, à quoi il sert et quelle est sa puissance magnétique, vous demande Margot. Vous êtes Julien Bobroff, physicien, professeur à l'université Paris-Sud, c'est-à-dire Orsay, et vous avez écrit chez Flammarion « Mon grand mécano quantique ». Alors que lui dites-vous à Margot ?
Oui, alors bonjour Margot. Alors d'abord, la recette de cuisine pour faire le plus gros aimant au monde. Comme ça, ça nous permettra de voir où ils sont. Alors c'est assez simple en fait. Déjà, si on utilise des aimants comme ceux qui collent au frigo, ça va pas marcher. Eux, ils sont assez limités. Non. Ils vont permettre de monter jusqu'à peut-être 1000, 10 000 fois le champ de la Terre, mais pas plus. C'est déjà pas mal, hein, mais on pourra pas aller au-delà. Si on veut aller au-delà, la seule façon de faire, c'est de prendre du fil électrique et puis de faire une bobine. Hein. On tourne comme ça, plusieurs tours, et ensuite on met du courant dedans. Si on fait ça, qu'on prend du fil, qu'on le tourne et qu'on met du courant dedans, ça crée un champ magnétique. Et alors là, la règle, elle est très simple. Hein. Plus on met de tours bien serrés, plus il y a de champ magnétique. Plus on met de courant, plus il y a de champ magnétique. Donc la recette de cuisine, c'est fabriquer des milliers de tours comme ça, bien serrés, et mettre le plus de courant qu'on peut.
Du fil en cuivre ?
Ouais, du fil en cuivre. Alors le problème, il arrive tout de suite, c'est que c'est un grille-pain, ce truc-là, ça chauffe. Et donc si on met trop de courant dedans, ça fond. Et donc il y a une limite technologique assez simple qui est, mais comment arriver à mettre beaucoup de courant dans une bobine sans que ça fonde ? Donc il y a plusieurs solutions pour ça. Il y en a une, c'est d'utiliser certains métaux particuliers qui ne chauffent pas. C'est les supraconducteurs, mais ça a une limite. Puis il y en a une autre, hein, c'est la technique, on va dire, bourrin. C'est de refroidir avec de l'eau. C'est de refroidir tout ça en permanence, avec énormément d'eau, pour pas que ça chauffe trop.
Donc finalement, l'électricité, je pensais qu'elle ne se mariait pas avec l'eau, elle peut.
Alors il faut faire attention, faut isoler, parce que sinon ça va tout électrocuter, il va y avoir un court-circuit. Donc il faut un peu protéger la bobine de l'eau, mais on sait faire ça assez bien. Faut pas le faire chez soi n'importe comment, hein, parce qu'on pourrait se faire mal. Alors les records du monde, on y va. Donc il y a trois records du monde, parce qu'il y a trois façons de faire. Il y en a une, c'est exactement ce que je viens de dire. On prend une bobine, on met du courant dedans, et puis on mesure le champ. Et ce record-là, en fait, il est en Floride, à Tallahassee. Et on a réussi à faire une bobine qui va jusqu'à, alors les unités, hein, c'est 45 Tesla. Donc un Tesla, c'est déjà 10 000 fois le champ de la Terre. Donc là, on est à 500 000 de fois le champ de la Terre. Donc ça, c'est la bobine la plus puissante qu'on sache faire, en mettant juste du courant. Et puis alors, il y a deux astuces qui permettent d'aller plus haut. Il y en a une, c'est de faire ça, mais pendant un temps très court. Alors ça, par exemple, les champions de ça, c'est à Toulouse. C'est le laboratoire des champs intenses de Toulouse, un laboratoire du CNRS. Ce qu'ils font, c'est qu'ils ont un sous-sol dans lequel ils chargent dans des capacités énormément d'électricité. Et puis, ils ont une bobine à l'étage qu'ils ont mis dans un liquide très froid pour qu'elle reste bien froide. Et à un moment donné, ils vont dire 3, 2, 1, top. À ce moment-là, ils envoient toute l'électricité d'un coup dans la bobine. Et puis, au bout d'un moment, elle s'arrête. Donc, ils arrivent à faire un champ pendant un temps très court, mais qui peut être encore plus grand que les records précédents. Et on peut aller deux fois plus haut. Le record actuel, il est détenu à la fois à Los Alamos et à Toulouse. On est à peu près à 100 Tesla, c'est-à-dire 1 000 000 de fois le champ de la Terre. Donc là, on pourrait se dire c'est le record ultime, mais il y a encore mieux. Il y a le record absolu, où là, il faut faire une bombe. En fait, il y a une technique qu'on sait faire, qui est en faisant ce qu'on appelle une implosion, une bombe qui s'effondre sur elle-même. On peut, avec des astuces de bobines coincées les unes dans les autres, augmenter encore le champ magnétique. Alors là, le problème, c'est que quand vous faites cette expérience-là, à la fin, l'échantillon que vous avez mis dedans, il est mort parce qu'il a explosé. Puis il faut que tout le monde s'écarte bien, il faut être très prudent. Mais il y a des Japonais et des Russes qui ont fait ça. Et alors les champions, je crois que c'est les Russes. Les Russes ont réussi, en faisant exploser en fait leur expérience, à aller jusqu'à 2800 Tesla. Donc là, on est à 30 millions de fois à peu près le champ de la Terre. Donc c'est des champs gigantesques. N'importe quel objet magnétique serait attiré à des dizaines de mètres. C'est des champs absolument hallucinants.
C'est ce que j'allais vous dire, Julien Bobroff. Quand on fait ça, parce que l'aimant, il attire le fer, est-ce que tout d'un coup, il n'y a pas toutes les voitures du quartier qui viennent se coller au bâtiment ?
Alors non, parce que cet effet-là, il décroît beaucoup quand on s'écarte.
Ah bon ?
Donc il suffit juste qu'il n'y ait pas de voiture tout près. Voilà, si sur quelques mètres, il n'y a rien de magnétique, tout va bien. Moi-même, j'ai travaillé dans un laboratoire où on utilisait des champs intenses pour faire des expériences de résonance magnétique. C'est un peu comme l'IRM dans les hôpitaux. Et pour quelqu'un qui a déjà passé une IRM dans un hôpital, vous le savez bien, on n'a rien le droit de porter sur soi ou d'emmener de magnétique dans la pièce de l'IRM. Par contre, si on est dans la rue à côté, il n'y a aucun problème. Parce que c'est des effets qui n'ont lieu que très près du champ magnétique.
Voilà comment on arrive à fabriquer le plus gros aimant du monde. Et à quoi sert-il, demande Margot.
Ah, ça c'est une bonne question. Alors là je vais répondre à un truc qui se mord un peu la queue. Ça sert aux physiciens pour voir comment la matière se comporte dans des champs intenses. En fait, c'est un truc de physicien. Dès qu'on veut essayer de comprendre la matière, de comprendre comment elle se comporte, ses propriétés, on va la torturer. On va lui faire subir des choses extrêmes et ça nous renseigne finalement sur ce qu'elle a en elle. Donc on peut la refroidir extrêmement ou la chauffer extrêmement ou appuyer dessus extrêmement. On adore mettre des pressions gigantesques ou mettre un champ magnétique gigantesque. Donc en fait, les physiciens aiment beaucoup regarder comment la matière se comporte quand on lui fait subir un champ extrême, parce que ça nous révèle un petit peu qui elle est. C'est une espèce de crash test de physicien pour la matière.
Qu'il s'exprime bien, avec enthousiasme, on a envie de le suivre. Julien Bobrov, nous pouvons aussi le lire, il a écrit chez Flammarion, « La quantique, autrement, garantie ». Sans équation. Vous connaissez Luis Sepúlveda, c'est un auteur chilien mort en 2020. Il a connu le régime de Pinochet, la prison, l'exil. Son chef-d'œuvre, Le Vieux qui lisait des romans d'amour, est une merveille. Les éditions Métellier ont eu l'idée de réunir dans un même volume 5 récits de Luis Sepúlveda pour la jeunesse. Ces 5 petits livres ont en commun d'avoir des animaux pour héros. Histoire du chat et de la souris qui devinrent amis. C'est très touchant car on découvre un chat vieillissant, plus très performant. Histoire d'une baleine blanche. Histoire d'un escargot qui découvrit l'importance de la lenteur. L'histoire d'un chien mapouche, qui est en plein dans l'actu de la déforestation. Les mapouches sont des Indiens, le nom du chien c'est Loyal, j'ai tout dit. Ma préférée, c'est l'histoire d'une mouette et du chat qui lui a appris à voler. Le chat, qui est un macho absolu, est bouleversé en voyant mourir une mouette prise par la marée noire. « Comment puis-je t'aider ?» lui dit-il. Elle lui répond « Pour moi, tu ne peux plus rien, c'est la fin, mais promets-moi de t'occuper de mon œuf, de le couver d'abord, puis d'apprendre à voler à mon oiseau. »« Non, sans blague, tu veux que je couve un œuf ? Moi, chat, caïd du port, tu peux pas me demander ça. » Et comme toute réponse, elle meurt. Et voilà notre chat avec son œuf. Il se fait aider par les autres chats, tout aussi macho que lui, mais tout aussi généreux aussi. Le chat de la bibliothèque va trouver des renseignements et chacun fera suivant ses compétences. C'est extrêmement drôle. On est tenu par l'intrigue, je ne vous dis pas s'il va y arriver, mais ce que je peux vous dire, c'est que même si ce chat n'a pas toujours bon caractère, il est aussi tendre qu'il est malin, et que comme ça, sans faire la morale, Luis Sepúlveda arrive à dire des choses très importantes. Le bestiaire chez Métellier de Luis Sepúlveda, illustré par Joël Jolivet. Podcasté ces petits bateaux par franceinter.fr. Marjorie Devoucoum, Marie-Claire Matoute, Jean-Baptiste Audibert, Théo Gomard, Stéphane Comé, Noël Bréham. Nous vous donnons rendez-vous dimanche prochain à 19h30. À suivre Jérôme Garcin pour Le Masque et la Plume, consacré ce soir à la littérature.